Sajo et ses castors par Gray Hall, deuxième cassette, deuxième face, page 64. Quand enfin le moment tant attendu arriva, quand la pirogue d'écorce jaune à la queue ondoyante et à l'œil vigilant vint en glissant s'arrêter à un piquet de la plage sablonneuse, tout le monde se mit à parler à la fois. Gitche Miguon mit pied à terre et prit les mains de ses enfants, autant du moins qu'une des siennes pouvait en contenir, car pour une certaine raison, il gardait l'autre derrière son dos, et il s'efforça de répondre sur le champ à toutes les questions. Lui qui avait parfois la mine si sévère, était tout souriant, tout épanoui, tandis qu'il criait « Enfant, enfant, laissez-moi parler, donnez-moi le temps de vous répondre. Oui, je suis sain et sauf. Non, je n'ai pas rencontré de métis. Oui, notre terrain de chasse a été respecté. Oui, je me suis senti bien seul, mais c'est oublié. Et maintenant, joyeux anniversaire, ma Sajo, joyeux anniversaire, ma petite fille. » Alors seulement, Longue Plume avança la main qu'il avait gardée derrière lui et qui tenait, vous l'avez deviné, le panier d'écorce de bouleau, et il dit en le soulevant par l'anse tressée, hors de la portée des enfants, « Doucement, doucement, regarde, Sajo, voilà un cadeau que je t'apporte pour ton anniversaire. » Et il lui remit le panier en lui recommandant de le porter avec grand soin. Puis, se tournant vers Chapian, il ajouta, « C'est pour toi aussi, puisqu'il y en a deux. » « De quoi, père ?» demanda le jeune garçon en regardant sa sœur qui partait déjà vers la maison. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier ?» Mais Longue Plume se contenta de répondre qu'il le verrait bien, et tous deux suivirent Sajo, qui remontait le sentier d'un drôle de petit pas rapide et glissant, destiné à éviter toute secousse à son fardeau. Tandis que sous la jupe de tartan, des petits mocassins perlés se démenaient en scintillant, Sajo, à partir des genoux, se tenait aussi raide que possible, de façon à ne pas agiter le panier qu'elle portait devant elle, avec autant de soin que si ça avait été un gros œuf prêt à se briser en mille morceaux au moindre choc. Oui, en vérité, elle prenait toutes sortes de précautions, car des sons étranges sortaient du mystérieux panier. Un bébé, pensait Sajo, ou plutôt deux bébés, mais il fallait qu'ils fussent bien minuscules pour tenir dans un si petit espace. Sitôt arrivée dans la cabane, elle déposa le panier très doucement sur le plancher, et tandis que Chapian, qui lui non plus n'avait pas traîné en route, tenait les parois du panier, elle retira le couvercle. Alors elle vit à l'intérieur, vous savez quoi, deux petites boules laineuses, quatre petites pattes, semblables à des mains minuscules, qui cherchaient à saisir le rebord du panier, et deux paires d'yeux noirs brillants comme des boutons de chaussures qui la considéraient d'un air futé. « Oh !» fit-elle comme s'il avait la respiration coupée. « Oh ! Oh !» Et comme rien d'autre ne lui venait à l'esprit, elle répéta « Oh !» encore une fois, puis s'exclama « Des nounours ! Des nounours vivants !» Les nounours étaient la grande fureur du moment. Dans tous les coins du monde, tous les enfants avaient leur ours en pluche ou souhaitaient en avoir un. Sajo coucha doucement le panier sur le côté et les deux petits animaux en sortirent. Quand Sajo vit leur queue, elle reconnut à quelle bête elle avait affaire. C'était beaucoup mieux que des nounours. « Des petits castors, ce sont des petits castors !» s'exclama Chapian pâle d'émotion, oubliant tout à fait sa jeune dignité. « Des vrais, des vivants !» Du haut de sa grande taille, Longue Plume considérait en souriant les deux enfants ravis, heureux lui-même de voir l'accueil reçu par son cadeau. Sajo demeurait assise par terre, la bouche encore ouverte en forme d'eau. Mais aucun son n'en sortait. Elle était trop absorbée pour attirer l'attention de son père sur les rideaux dont elle était si fière, bien que, soyez-en sûr, le regard perçant de son père les eût déjà remarqués. Le dîner attendait, et la fameuse carabine, si propre et si brillante, restait oubliée dans son coin. Gitche Miguon, durant le long voyage, avait très bien soigné les petits castors et les avait si bien nourris qu'ils étaient tout replets. Sajo pensait qu'elle n'avait jamais vu plus jolie petite créature. Quand ils s'accrochèrent à ses genoux en poussant de petits gémissements entrecoupés, elle pencha la tête et frotta son visage sur leur douce toison, toute parfumée par leur lit d'écorce de bouleau et d'herbes aromatiques. Longue Plume et Chapian étaient sortis pour aller chercher des feuilles et de la litière fraîche pour leurs petits hôtes. Sajo demeura seule dans la cabane. Elle ramassa les castors et les tint à tour de rôle dans ses mains mignonnes où leurs petits corps trapus se nichaient si confortablement, et elle leur chuchota de douces choses. Alors, merveille des merveilles, ils lui répondirent avec une petite voix d'enfant, s'accrochèrent à ses doigts avec leurs petites mains et fixèrent attentivement sur elle leurs yeux noirs brillants, remplis d'une expression si intelligente. Et quand elle les prit tous les deux dans ses bras, ils poussèrent de drôles de petits cris et fourrèrent contre son cou leur petit nez chaud et humide en soufflant comme font les petits bébés. Alors Sajo sentit qu'elle allait les aimer beaucoup. Les poupées, Chilaoui et Chikani, qui considéraient ce spectacle d'un œil morne, semblaient plus tristes que jamais. Aussi, pour couper court à leur chagrin, Sajo les remit-elle en place sur l'étagère en leur tournant le visage contre le mur. Et dans l'humble cabane de bois, au fond des forêts du Grand Nord, il y eut ce jour-là trois êtres vraiment heureux. Gitche Miguon, parce que son retour au foyer avait été si joyeux. Chapian, parce que son père lui avait dit qu'il partagerait les castors avec Sajo et l'avait de plus complimenté sur son travail. Et Sajo, parce que son père lui avait fait un merveilleux cadeau d'anniversaire, le plus beau qu'elle eût jamais reçu. Chapitre 6. Gros petit et tout petit. Les deux petites bêtes s'acclimatèrent très vite à leur nouveau mode d'existence. Et si parmi les humains, personne ne pouvait remplacer leurs parents, du moins fit-on tout ce qu'il était possible pour les rendre heureux. Chapian entoura la partie inférieure de sa couchette avec des plaques d'écorce de bouleau, ce qui leur fit une maison dans laquelle ils s'installèrent et se sentirent tout de suite chez eux. Gitche Miguon découpa un trou dans le plancher et y adapta un baquet à lessive qui fit une pièce d'eau, pas bien vaste évidemment, mais aussi large que leur ancien trou de plongée. Les petits castors y passaient presque la moitié de leur temps, se couchant même sur l'eau pour grignoter leurs feuilles et leurs branchettes. Quand ils sortaient du baquet, ils s'accroupissaient à côté, le buste droit, et se mettaient à frotter leurs rondelettes petites personnes, pressant d'abord leurs poils touffus avec leurs petits poings pour en faire sortir l'eau, puis peignant avec soin toute leur fourrure avec les doubles griffes que les castors ont pour cet usage aux pattes de derrière. Tout ceci leur prenait un bon moment. Ils gardaient un air si sérieux et si affairé pendant toute cette opération que Sajo s'y intéressait autant qu'eux-mêmes et les aidait parfois en frottant leur fourrure avec le bout de ses doigts, après quoi ils reprenaient leur toilette avec une énergie nouvelle. Quand ils se séchaient ainsi, ils avaient coutume de tenir une patte au-dessus de leur tête, aussi haut que possible, tout en se frottant le côté avec l'autre patte, ce qui leur donnait l'air de danser la gigue. Ils restaient souvent assis pour manger l'écorce des petits bâtons, et lorsque l'un ou l'autre tenait à deux mains un de ces bâtons et le faisait tourner sur lui-même à mesure que les dents diligentes en rongeaient l'écorce, il ressemblait à un petit bonhomme en train de jouer de la flûte. Parfois, quand les tiges étaient très minces, ils variaient le spectacle en les mangeant tout entières. Mettant alors un bout de la tige dans leur bouche, ils la poussaient peu à peu avec leurs mains, pendant que leurs tranchantes incisives, fonctionnant à toute vitesse, la hachaient menue. Le bruit produit par cette opération ressemblait beaucoup à celui qu'auraient fait deux machines à coudre un peu détraquées. Et quand les petits animaux, la tête dressée en l'air, semblaient pousser lentement leurs petits bâtons jusqu'au fond de leur gosier, on eût dit deux avaleurs de sabres, savourant avec gourmandise leur indigeste repas. Pendant les deux premières semaines, il fallut leur donner du lait, et Sajo dut emprunter à une voisine un biberon et une tétine pour les faire boire. Mais tandis que le premier tétait, les deux mains serrées autour du goulot de la bouteille, le second poussait les hauts cris, jouait des pieds et des mains pour attraper le biberon, et menait un tel tapage que dans la confusion qui en résultait, la boîte de lait était parfois renversée avec son contenu. On se procura donc un autre biberon, et Chapian fit boire un des castors pendant que Sajo s'occupait de l'autre. Un peu plus tard, on les nourrit avec du bannock, du pain, trempé dans du lait, ce qui simplifia un peu les choses, chacun ayant sa petite assiette particulière que les enfants tenaient devant lui. Les castors y puisaient leur pâté d'une main et l'enfournaient prestement dans leur bouche. Leur manière de manger, je le crains, manquait de correction. Ils faisaient claquer leurs lèvres, soufflaient bruyamment et parlaient souvent la bouche pleine. Il faut reconnaître cependant qu'ils avaient une qualité que nous sommes loin de posséder tous, l'ordre. Quand ils avaient terminé leur repas, ils tenaient à ranger leur assiette qu'ils poussaient devant eux sur le plancher, jusque dans une encoignure ou sous le fourneau. Naturellement, s'il restait quelque chose dedans, les castors ne s'en inquiétaient pas. Quand les assiettes arrivaient à destination, des débris de bannock trempés avaient été piétinés, écrasés sur tout le parcours, et de petites empreintes poisseuses décoraient le plancher qu'il fallait ensuite nettoyer. Sajo ramassait toujours les petites assiettes et les lavait comme celles des grandes personnes. Nourris ainsi séparément, chaque castor prit l'habitude de considérer un des enfants comme son protecteur particulier vers lequel il se précipitait quand il s'entendait appeler. Au début, il n'avait pas de nom. Les enfants se contentaient de crier « Amic, amic, ondas, ondas !» ce qui veut dire « Castor, castor, viens ici, viens ici !» Un peu plus tard, Sajo se rappela l'air triste des poupées le jour de l'arrivée des castors et comment les nouveaux venus eurent vite fait de prendre leur place. « Eh bien, se dit-elle, pourquoi ne prendraient-ils pas aussi leur nom ?» Elle appela donc les castors Chilawi, Chilawe et Chikani, Chikan2e, c'est-à-dire gros petit et tout petit. Ces noms leur convenaient à merveille car ils étaient tous deux minuscules et faisaient penser à des animaux en peluche descendus de leur étagère. Ils ne furent pas longs à connaître leur nom et prirent vite l'habitude de sortir de leur maison dès qu'ils l'entendaient prononcer. Seulement, comme ces noms se ressemblaient beaucoup, lorsqu'on en appelait un, tous deux accouraient ensemble et comme eux-mêmes se ressemblaient comme deux pois chiches et que leur différence de taille était minime, il était souvent assez difficile de les distinguer l'un de l'autre. C'est ainsi que l'un d'eux, pendant quelque temps, grossissait un peu plus vite que l'autre, puis il restait stationnaire, alors son frère le rattrapait et le dépassait. Pour commencer, le premier était plus gros que le second. Après quoi, c'était le second qui devenait plus gros que le premier. Et l'on découvrait au bout d'un certain temps que tout petit s'était transformé en gros petit et que le vrai gros petit se faisait prendre pour tout petit. À peine ce point était-il établi, que leurs proportions variaient de nouveau et quand, au cours de tous ces changements, ils se trouvaient de taille égale, il n'y avait plus du tout moyen de s'y reconnaître. Tout cela était fort déroutant, et Sajo avait décidé de leur donner désormais un seul nom et de les appeler simplement les petits. Quand Chilawi résolut le problème à sa façon. Il avait l'habitude de s'endormir dans l'espèce de niche tiède que formaient sous le fourneau les pierres qui lui servaient de support. Un jour, une odeur de poils roussis s'était répandue dans l'air sans que personne pût deviner d'où elle venait. Le fourneau fut ouvert, examiné, vidé, les tuyaux tapotés, secoués, le tout sans résultat. Et pendant ce temps, l'odeur de poils brûlés devenait de plus en plus forte. Enfin, quelqu'un eut l'idée de regarder sous le poêle et découvrit Chilaoui qui dormait du sommeil de l'innocence pendant que le poil de son dos grésillait. On le tira de là avec un large morceau de sa fourrure tout brûlé, ce qui faisait une marque dans le genre de celle qu'on imprime sur le bétail dans les fermes d'élevage, et cette marque resta visible tout l'été, permettant de le distinguer très aisément de son frère. En appelant le roussi Chilaoui, avec l'accent tonique sur la première syllabe, et l'autre Chicani, avec l'accent sur la dernière syllabe, on apprit à chacun à connaître son nom et tout finit par s'arranger. C'était vraiment une paire de petits bavards que Chilaoui et Chicani. Ils ne cessaient de jaboter ensemble. Quand l'un ou l'autre des enfants leur parlait, ils répondaient par un chœur de petits bêlements aigus. Si l'on se livrait à un travail quelconque dans la cabane, transport de l'eau, du bois, balayage du plancher, si les enfants riaient et causaient plus fort que d'habitude, ou s'il y avait une visite, nos deux castors bondissaient hors de chez eux pour voir ce qui se passait, exécutaient toutes sortes de cabrioles et se montraient généralement assez encombrants. On s'était aperçu qu'ils emportaient toujours les bons morceaux qu'on leur donnait de la table pour les manger dans leur maison, ou les y mettre en réserve. Aussi, quand il leur arrivait, comme aux enfants mal élevés, d'ennuyer les visiteurs, on essayait de les faire rentrer chez eux en leur offrant des petits morceaux de bannock, mais ils ressortaient bientôt pour en demander d'autres et le petit manège continuait. Ils comprirent très vite que le moment des visites était pour eux celui du bannock. De même, ils connaissaient l'heure des repas et tiraillaient les enfants par leurs vêtements ou essayaient de grimper le long de leurs jambes pour se faire servir. Évidemment, ils obtenaient toujours ce qu'ils demandaient et emportaient bien vite leur butin dans leur case en secouant la tête et en sautillant d'un air vainqueur. Ils suivaient partout les enfants, trottinant derrière eux sans se lasser. Leurs pattes étaient si courtes, ils rasaient de si près le plancher qu'on voyait à peine leurs pieds et l'on eût dit deux petits animaux mécaniques remontés à fond qui ne voulaient plus s'arrêter. Tout ce qu'ils trouvaient par terre, bouts de bois, mocassins ou autres objets, était traîné par eux à travers la pièce. Plus tard, quand ils furent plus gros et plus vigoureux, ils volèrent même des bâtons dans le coffre à bois pour les réduire en copeaux dont ils faisaient leur litière, et une jolie petite litière prête, je vous prie de le croire. Tous les articles qui tombaient sur le plancher, s'ils n'étaient pas ramassés immédiatement, disparaissaient chez eux. Le balai était décroché et promené un peu partout. Ce balai et le bois de chauffage semblaient leurs joujoux favoris, sans doute à cause du tapage qu'on pouvait faire avec et qui paraissait les amuser prodigieusement. Mais leur plus grande distraction, c'était de lutter ensemble. Dressés sur leurs petites pattes de derrière, ils s'étreignaient avec leurs petits bras courts autant que faire se pouvait et la tête posée sur l'épaule de l'autre, chacun s'efforçait de culbuter son adversaire. Or, cela n'était point commode à cause de la large queue et des gros pieds palmés qui fournissaient à chacun une base solide. Les muscles tendus, ils peinaient, grognaient, soufflaient jusqu'au moment où l'un d'eux, se sentant glisser, commençait à reculer pour garder son équilibre tandis que l'autre avançait en le poussant de toutes ses forces. Parfois, le premier reprenait assez l'avantage pour pousser à son tour le second en sens contraire, et la promenade se poursuivait dans la direction opposée. Ainsi donc, avançant, reculant, virant, tournant, ils se livraient durant des minutes entières à ce jeu étrange qui les faisait ressembler à deux danseurs en train de valser. Pendant ce temps, outre les respirations haletantes et les grognements des champions, on entendait les cris et les glapissements de celui qui perdait du terrain, des piétinements, des trépignements, et le bruit des queues battant le plancher pour maintenir en équilibre leurs possesseurs respectifs jusqu'au moment où l'un des combattants, en reculant, laissait sa queue se replier sous lui et tombait à la renverse. Alors ils se séparaient et se mettaient à courir autour de la pièce comme des fous. Tout cela se faisait avec la plus grande bonne humeur et c'était un spectacle que les enfants ne se lassaient jamais de regarder. Néanmoins, les jeunes animaux n'étaient pas toujours aussi turbulents. Il leur arrivait de rester tranquillement assis l'un près de l'autre, les mains posées sur la poitrine et la queue étalée devant eux, sages comme des images, regardant et écoutant sans rien dire, comme s'ils essayaient de comprendre ce qui se passait autour d'eux. Lorsqu'elle les voyait ainsi accroupis côte à côte, semblables à deux petits bonshommes en chocolat, s'agenouillant parfois devant eux, leur racontait une histoire en scandant les mots avec son index, comme si elle dirigeait un orchestre. Il l'écoutait en suivant son doigt d'un regard attentif et commençait bientôt à branler la tête de haut en bas et de droite à gauche, à la façon des castors quand ils sont contents. Puis il se mettait à se trémousser tout entier avec tant d'énergie qu'il finissait par culbuter et rouler sur le plancher, absolument comme s'il comprenait l'histoire et qu'elle les amusa au point de leur donner le fou rire. Chapian considérait ce tableau d'un air supérieur, mais à part lui, regrettait d'être un peu trop grand pour se livrer à un jeu si puéril. Parfois aussi, les petites bêtes avaient des accès de tristesse et pleurnichaient ensemble dans leur petite chambre obscure. Sajo, qui n'avait jamais oublié sa maman et savait bien pourquoi ils étaient malheureux, les prenait alors dans ses bras en chantonnant tout doucement pour essayer de les réconforter. Cramponnés à la fourrure l'un de l'autre, comme s'ils avaient peur de se perdre, ils se blottissaient contre elle et fourraient leur tout petit nez dans le creux tiède de son cou, qui était leur place favorite. Au bout d'un moment, ils cessaient de larmoyer, oubliaient leur chagrin, et après quelques longs soupirs et des vagissements de satisfaction, s'endormaient tous les deux. Car malgré leur espièglerie, leur turbulence, leur joyeux entrain, c'étaient après tout de petits orphelins. Et à leur humble manière, il reportait sur ces deux enfants d'hommes l'amour donné au commencement aux parents qu'ils avaient perdus et qu'ils ne pourraient jamais oublier. Chicani aimait particulièrement Sajo. Il n'était pas aussi vigoureux que Chilawi. Il était plus doux et plus tranquille. Chilawi, joyeux compère, était un de ces gaillards qui ont pour devise le jeu avant tout et à qui la vie faisait semble faite uniquement pour s'amuser. Chicani, lui, avait des accès de mélancolie tout seul dans les coins. Alors il fallait le prendre, le câliner, s'occuper de lui. Il quittait souvent sa chambrette et venait pleurer au milieu de la nuit à côté de Sajo pour qu'elle le prît dans son lit et le laissa dormir à côté d'elle, tandis que dans sa case, Chilawi, étendu sur le dos, ronflait de tout son cœur. Quand Chicani avait une petite mésaventure, s'il se cognait le nez contre le poêle par exemple, ou avait le dessous dans une lutte avec Chilawi, il accourait se faire consoler par Sajo. Et Sajo était toujours prête à sympathiser avec lui, parce qu'il était le plus faible des deux. Elle s'accroupissait par terre et Chicani grimpait sur ses genoux, où il se pelotonnait, heureux et satisfait. Quant à Chilawi, quand il avait épuisé ses malices ou se sentait un peu délaissé, il arrivait à son tour pour avoir sa part de caresses. Il se faufilait à côté de Chicani et se pressait contre celui-ci en poussant de profonds soupirs, très satisfait sans nul doute du travail de sa journée. Et Sajo, ne voulant pas les déranger, demeurait immobile jusqu'à ce qu'il leur plût de s'en aller. C'était maintenant chose facile de les distinguer l'un de l'autre. Chilawi était plus fort, plus hardi, plus aventureux que son compagnon. C'était une espèce de clown qui semblait prendre plaisir à se cogner la tête contre les pieds de table ou à culbuter dans le coffre à bois. Il était curieux comme une belette et fourrait son nez partout. Un jour, il se précipita dans un seau d'eau abandonné sur le plancher, le prenant sans doute pour un trou de plongée. Naturellement, le seau chavira et l'eau jaillit dans toutes les directions. Chilaoui en fut tout surpris, les assistants aussi. Mais en dépit de son caractère indépendant, il était aussi affectueux que Chicani, et il s'attachait aux pas de Chapian exactement comme Chicani s'attachait à ceux de Sajo. Il ne pouvait pas non plus supporter d'être séparé très longtemps de Chicani. Partout où ils allaient, ils étaient ensemble, trottinant côte à côte ou l'un derrière l'autre, et s'ils se séparaient dans leur pérégrination à travers le campement, ils se mettaient bientôt à se chercher et à s'appeler. Quand ils s'étaient retrouvés, ils s'asseyaient un moment sans bouger, leurs deux têtes l'une contre l'autre, en se tenant mutuellement par leur fourrure. Mais cette humeur songeuse durait peu, et tout finissait par un de ces curieux combats qui semblait être pour eux la manière d'exprimer leur satisfaction. Et Sajo se disait souvent qu'il serait bien cruel de les séparer. Fin de la deuxième piste de la deuxième cassette, page 83, Sajo et ses castors, par Gray Hall.